Bonjour. On m'a posé la question, il y en a qui prennent de l'avance pour savoir ce qu'on peut faire comme examen. Généralement, ce que je demande, c'est que on parle pendant un quart d'heure, 20 minutes, sur ce que cette lecture de Job nous apporte, ou les questions qu'elle nous pose. On voit tout de suite jusqu'à quel niveau nous avons lu le texte. Donc, je mettrai à la session d'examen 2 ou 3 jours où je peux écouter vos appréciations de votre propre lecture. On pourrait dire que le livre de Job se terminerait bien ici. Je m'avancerai vers mon Dieu comme un prince. C'est comme ça que Job a terminé son plaidoyer. Parce que c'est vraiment un plaidoyer qui exprime, je dirais, sa propre innocence. Attention, il a ce sentiment qu'il n'a jamais lâché la main de Dieu. Et c'est ça son innocence, c'est que il n'a pas renié sa foi. Elle lui pose des quantités de questions, mais il reste fidèle à cette présence de Dieu. Et d'ailleurs, il est le seul à passer du discours sur Dieu à la prière à Dieu, jusqu'à la fin, au chapitre 31e. Dieu pourrait le rencontrer tout de suite, en quelque sorte, et répondre à son appel. Mais Dieu n'obéit pas à l'homme. Il l'écoute, mais il obéit à la profondeur qu'il est dans l'homme. Dieu est la profondeur de l'homme, mais nous n'allons que rarement jusqu'à notre dernière profondeur, c'est-à-dire jusqu'à Dieu. Et nous allons encore devoir attendre un peu la réponse de Dieu. Et je vous dis déjà, après le cours d'aujourd'hui, les chapitres 32 à 37, nous pourrons nous poser la question, ça peut être une bonne question pour l'examen aussi, pourrions nous poser cette question, mais qu'est-ce que moi je répondrai à Job? Est-ce que je répondrai quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que je lui dirai? Des Jobs, nous en avons à côté de nous tous les jours. Et ils sont tous différents. Alors, qu'est-ce que nous leur disons quand nous visitons des malades ou des souffrants, des gens dans l'épreuve, des gens qui vont mourir? Comment sommes-nous là? Donc, c'est la question profonde que Job nous pose. Eh bien, au lieu d'avoir tout de suite la réponse de Dieu, nous avons un quatrième ami. Enfin, je ne sais pas s'il est ami, mais un quatrième personnage qui vient trouver Job. On n'en a pas parlé au début. Donc tout d'un coup, il fait irruption dans la vie de Job. D'où vient-il? Oh, on nous dit bien que il est d'Israël, celui-là. Il connaît probablement la théologie convenablement. Il est plus jeune que les autres, semble-t-il, mais il se présente lui-même. Bon, il est bien probable que les chapitres 32 à 37 ont été introduits et composés par quelqu'un qui a édité le livre de Job à un certain moment et qui se disait, un peu par scrupule, mais On n'a pas vraiment répondu à Job. Il faudrait aller plus loin. On n'a surtout pas répondu à une chose, c'est que Job, en s'irritant comme cela, en se mettant en colère contre Dieu, en se révoltant vraiment contre Dieu, est-ce qu'il ne blasphème pas? Est-ce qu'il n'est pas lui-même orgueilleux? Alors, nous allons voir brièvement, un peu en survol, ces chapitres 32 à 37. Ces trois hommes, on ne parle plus d'amis, on parle ces trois hommes, cessèrent de répondre à Job parce qu'ils s'estimaient justes. La plupart du temps, nous nous auto-justifions, et souvent quand nous prenons la parole, c'est pour nous justifier nous-mêmes devant nos propres yeux, et peut-être devant la galerie, c'est possible. Mais voici qu'entra en fureur Élihu. Mon Dieu, c'est lui! C'est ça la signification de son nom. Mon Dieu, c'est lui. Fils de Barakel, le Bouzite, du clan de Ram. Bon, ça c'est un personnage de la Bible, enfin le clan et le Bouz, ce sont des noms que nous trouvons dans la Bible, donc c'est plutôt quelqu'un du domaine d'Israël lui-même. Il n'est pas un étranger comme les autres. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il prétendait avoir raison contre Dieu. Voilà le problème. Est-ce qu'on peut avoir raison contre Dieu? Il faut se justifier contre Dieu. Elle s'enflamma également contre ses trois amis qui n'avaient plus rien trouvé à répliquer et ainsi avaient laissé les torts à Dieu. Alors, ça c'est une bonne question pour les théologiens, ou ceux qui se croient tels. C'est que il va parler de Dieu, il va défendre Dieu, et il va justement s'irriter contre Job parce qu'il se révolte contre Dieu. Parce qu'il semble se justifier. Et, cette chose curieuse, mais c'est important aussi de s'en rendre compte, c'est que quand nous accusons quelqu'un de quelque chose, nous devons faire bien attention, parce que la plupart du temps, c'est nous que nous devrions accuser. On est toujours un peu ouvert et soupçonneux vis-à-vis de nos propres défauts que nous projetons en quelque sorte dans les autres. Tandis qu'il parlait, Élihu s'était tenu sur la réserve, car ils étaient ses anciens. Donc il est le plus jeune, alors il pense bien qu'il faut d'abord laisser parler les plus âgés. Mais quand il vit que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche, sa fureur éclata. Et il prit la parole, lui, Élihu, fils de Barakel, le Bouzite. Lui a le droit à la parole. Et donc, ces chapitres qui ont été vraisemblablement ajoutés nous apportent quand même quelque chose. D'abord, il y a un peu d'humour dans celui qui a introduit ces chapitres. Il y a un peu d'humour pour nous dire les incohérences dans lesquelles nous nous mettons en disant que Dieu est au-dessus de tout et en faisant comme si on avait avalé l'Esprit Saint et si on savait tout sur Dieu. Nous ne savons pas tout sur Dieu. Et Job, au moins, sait qu'il ne sait pas tout. Mais quand nous avons fait un peu de théologie, nous pensons avoir compris Dieu, qui ne se comprend pas. Qui nous comprend, mais qui ne se comprend pas. Alors, bien entendu, il faut qu'il se dédouane un petit peu, c'est-à-dire qu'il se présente devant les autres. Je suis tout jeune encore, et vous êtes mes anciens. Aussi, je craignais intimidé de vous manifester mon savoir. Je me disais, ben là, je parlera. Les années nombreuses livreront la sagesse. Donc c'est de nouveau un discours de sagesse. À la vérité, c'est un souffle dans l'homme, la sagesse. Il revient sur ce chapitre 28e, dont nous avons dit qu'on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort, mais c'est la sagesse elle-même qui parle en troisième personne. C'est l'inspiration de Shaddai qui rend intelligent. Ah, il le sait, il le sait. Le grand âge ne donne pas la sagesse, ni la vieillesse le sens du juste. Donc il s'agit bien de savoir qu'est-ce que c'est que la justice, ou la justesse, ou l'ajustement à ce que nous sommes et à ce que Dieu est. C'est ça la justice. Aussi, je vous invite à m'écouter, car je vais manifester à mon tour mon savoir. Bon, on se dédouane dans une sorte d'humilité accrochée, mais c'est pour se mettre en évidence. Jusqu'ici, j'attendais beaucoup de vos paroles. J'ouvrais l'oreille à vos raisonnements, tandis que chacun cherchait ses mots. Sur vous se fixait mon attention. Et je vois qu'aucun n'a confondu Job. Nul d'entre vous n'a réfuté ses dires. Est-ce qu'il faut réfuter les dires de quelqu'un ou essayer de le comprendre? Ne dites donc pas, nous avons trouvé la sagesse. Notre doctrine est divine, non humaine. Ce n'est pas ainsi que je discuterai. Je répliquerai à Job en d'autres termes. Et il va interpeller Job de façon tout à fait personnelle. Ils sont restés interdits, sans réponse. Les mots leur ont manqué, et j'attendais, puisqu'ils ne parlent plus, qu'ils ont cessé de donner la réplique, je prendrai la parole à mon tour, je montrerai moi aussi mon savoir. Et souvent nous n'écoutons pas l'autre, nous n'essayons pas de le comprendre, et nous parlons nous-mêmes. Et nous nous écoutons. Car je suis plein de mots, oppressé par un souffle intérieur, voilà. En mon sein, c'est comme un vin nouveau cherchant issue et qui fait éclater des outres neuves. Vous voyez le passage que Jésus reprend cette image qui était probablement une image courante, un vin nouveau, outre neuve. Parce que si vous mettez du vin nouveau dans de vieilles outres, elles vont éclater. « Parler me soulagera. » Ah, c'est bien. « J'ouvrirai les lèvres et je répondrai. » « Je ne prendrai le parti de personne. » « À aucun je ne donnerai de titre flatteur. » »« Je ne sais point flatter, car mon Créateur me supprimerait sous peu. » Voilà son petit discours d'introduction. Et après ce petit discours d'introduction, eh bien, il va, en 5 points, s'exprimer. S'exprimer sur la sagesse de Dieu, il la connaît, semble-t-il, en tout cas plus que Job. S'exprimer aussi sur Job qu'il prend pour un orgueilleux. Est-ce que Job est vraiment orgueilleux? Voilà un peu ce qu'il faudra tirer au clair à la fin de ce discours. Et alors, après cet exorde que je viens de prendre, il y a un discours sur les médiations. Dieu agit, Dieu est présent dans la vie, mais il n'est pas présent comme cela directement. Il utilise des médiations. Et c'est un petit peu ce que vous allez voir au commencement. Dieu parle à travers les événements, à travers les personnes, à travers les réalités, à travers ce que nous vivons. Et c'est ce qu'il va appeler l'ange de Dieu. les visions ou les rêves, les songes et les anges de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un ange de Dieu? Ben, c'est une réalité créée qui nous fait percevoir, qui nous fait deviner cette présence divine. Mais ce sont des événements extérieurs. Créés, ça fait partie de l'ordre de la créature. L'ange, c'est un messager dont nous ignorons la vie privée. On ne nous dit rien sur l'identité de l'ange, du diable aussi, dans la Bible. On ne nous dit rien sur son identité. On sait qu'il existe et on sait qu'il nous apporte des messages. Qu'il est en quelque sorte la manifestation d'une présence de Dieu à travers les événements. C'est comme ça qu'il apparaît toujours. Quand on parle de l'ange du Seigneur, ça veut dire qu'on détecte bien cette présence de Dieu à travers les événements, à travers la providence, ce que nous appelons la providence, c'est-à-dire la présence de Dieu dans sa création. Et c'est de ça qu'il va s'agir. Car les discours d'Éliou vont quand même préparer le lecteur, sinon Job lui-même, il y a déjà en quelque sorte préparé, mais ces discours vont préparer le lecteur à se trouver en face de la grandeur de Dieu. Et là, Éliou va mettre deux catégories qui sont importantes en évidence. C'est d'abord cette grandeur absolue de Dieu qui nous dépasse et le fait qu'il parle à l'intérieur de ce que nous vivons. Et que ce que nous vivons, nos pauvretés, nos misères, nos limites, celles du temps et de l'espace, sont une présence divine. Et donc, ces deux dimensions sont importantes à repérer dans les textes 33 maintenant, puisque j'ai lu le 32, 33 à 37. Donc il y a d'abord des médiations. Dieu utilise sa création. C'est la preuve qu'il y est présent, qu'il y reste présent. Mais veuillez écouter mes dires, etc. Donc de nouveau, il y a un petit discours de présentation. Comment as-tu pu dire ? Ah voilà, il prend Job à partie, au chapitre 33. Comment as-tu pu dire ? Et il a écouté aux portes. Non, on ne le voyait pas présent, mais pendant que les trois amis discutaient avec Job, il a écouté. Et il a repéré certaines paroles qu'il n'a pas pu digérer, et elles ressortent ici. Il va reprendre quelques éléments que Job a dites, qu'il a comprises ou pas tout à fait bien comprises. Il caricature quelque peu, parfois. Comment as-tu pu dire ? Et il veut répondre. Mais en répondant, il veut défendre Dieu. Comment as-tu pu dire à nos oreilles, donc c'est au chapitre 33, verset 8, car j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur sans péché. Il n'a pas très bien compris ce que ça voulait dire. Et la plupart du temps, nous ne nous entendons pas sur certains mots. Qu'est-ce que c'est qu'être pur et qu'est-ce que c'est d'être sans péché ? Être pur et sans péché, c'est être simple, dans cette spontanéité naturelle, et sans avoir coupé le lien entre Dieu et nous-mêmes. On peut se fâcher contre quelqu'un, mais c'est contre quelqu'un qu'on se fâche. Et donc on n'a pas coupé le lien parce qu'on se fâche contre quelqu'un. Comment tu peux dire « je suis intact, intègre, sans faute » ? Mais il invente des prétextes contre moi. Ah voilà ce qu'il a compris de la révolte de Job, que Dieu invente des prétextes contre lui. Et il me considère comme son ennemi. Ah oui, là il y a un jeu de mots, voyez-vous, parce que Iov, si on retourne les syllabes, on fait Oyev et Iov. Oyev, on joue sur les mots, on dit que Job se fait l'ennemi de Dieu. Il met mes pieds dans les ceps et surveille toutes mes démarches. Il est ennuyeux à la fin, Dieu. Il est toujours là, hein. Son regard est partout. Or, en cela, je t'en réponds, tu as eu tort. Il accuse donc nommément Job ici. Car Dieu dépasse l'homme. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce que Job a dit. Job a dit qu'il n'avait jamais lâché Dieu. Il n'a pas dit que Dieu s'acharnait contre lui. Oui, bien sûr, mais il voudrait bien comprendre pourquoi. Parce que ça le dépasse. Pourquoi le chicanes-tu ? Parce qu'il ne répond pas mot pour mot. Dieu parle, et voilà les médiations qui arrivent, Dieu parle d'une façon et puis d'une autre, sans qu'on prête attention. Par des songes, par des visions nocturnes, quand une torpeur s'abat sur les humains et qu'ils sont endormis sur leur couche. Alors, il parle à l'oreille de l'homme. Par des apparitions, il l'épouvante pour le détourner de ses œuvres et mettre fin à son orgueil. Voilà. Pour préserver son âme de la fosse, sa vie du conduit souterrain. Attention, il le corrige aussi sur son grabat par la souffrance, quand ses os tremblent sans arrêt. Il met l'accent sur la souffrance comme pédagogie divine. La souffrance est la conscience profonde de sa limite. Conscience de sa limite humaine, conscience de son incapacité aussi à vivre comme on le voudrait, à vivre honnêtement, à vivre de façon juste. Mais ça, ce sont les limites de l'homme, sa finitude et son péché. Ils existent, nous sommes à la fois finis et pécheurs. Quand sa vie prend en dégoût la nourriture et son appétit les friandises, quand sa chair se consume à vue d'œil et qu'apparaissent ses os dénudés, hein, des choses que Job a dites, quand son âme approche de la fosse et sa vie du séjour des morts, alors, il se trouve près de lui un ange, un médiateur, pris entre mille. L'ange est précisément cette médiation entre Dieu et l'homme, cette relation profonde. Et qui rappelle à l'homme son devoir, et le prennent en pitié et déclare: « Exempte-le de descendre dans la fosse, j'ai trouvé la rançon pour sa vie. » Donc l'ange a une fonction médiatrice de rapprochement de Dieu, de révélation divine et en retour de rapprocher l'homme de Dieu. Donc l'ange est au fond une relation personnelle entre Dieu et nous. Et il va utiliser, il semble qu'il le connaisse, il va utiliser, en tout cas c'est la même idée, que dans le livre de Tobie, qui est aussi un livre de sagesse, qui montre l'ange qui accompagne, l'ange Raphaël, l'ange, c'est-à-dire Dieu qui guérit, qui accompagne le petit Tobie. Et lui donne aussi un pouvoir de guérison. Il va guériser son père en rentrant. Sa chair retrouve une fraîcheur juvénile, il revient au jour de son adolescence, puisqu'il est médiateur, il rapproche de Dieu. Il prie Dieu qui lui rend sa faveur, il vient le voir dans l'allégresse, il annonce aux autres sa justification et fait entendre devant les hommes ce cantique « J'avais péché et perverti le droit ». Dieu ne m'a pas traité selon ma faute. Il a exempté mon âme de passer par la fosse. Il maintient ma vie sous sa lumière. Voilà tout ce que fait Dieu, deux fois, trois fois pour l'homme. Donc il est un instrument de sagesse pour l'homme, cet ange. Mais l'ange, ce sont les réalités que nous vivons quand nous découvrons qu'elles sont une parole de Dieu. Et là, il a bien raison. Une petite angélologie un peu simpliste, mais qui est profonde. Afin d'arracher son âme à la fosse. La fosse, c'est toujours la perdition, la fin de tout. Arracher son âme à la fosse, ça veut dire mettre l'homme dans sa réalité, toute nue, toute présente à Dieu, toute aimée de Dieu, et de laisser briller en lui la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi bien, tais-toi. J'ai encore à parler. Si tu as quelque chose à dire, réplique-moi. Mais laisse-moi parler, hein, d'abord. Parle, car je veux te donner raison. Sinon, écoute-moi. Fais silence et je t'enseignerai la sagesse. C'est au fond, la plupart du temps, ce que nous avons en tête quand nous parlons. Hein. Nous voulons justifier notre connaissance, notre savoir. Il y a beaucoup de psychologie hein, dans un texte comme celui-là. Une psychologie naturelle, bien sûr, et je dirais de psychologie divine. Dieu est présent au cœur de sa création. Mais est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous nous laissons désorienter par elle? Voilà. Éliou reprit son discours et dit... Et vous les sages, écoutez mes paroles. Voilà, voyez, j'ai ma bonne théologie, puisque c'est la mienne, elle est bonne évidemment. Et vous les sages, écoutez mes paroles. Vous les savants, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille apprécie les discours comme le palais goûte les mets. Examinons ensemble ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bien. Voyez, toujours essayez de découvrir ce qui est juste, la justesse. Mais est-ce que nous en sommes vraiment capables? C'est ce qui est toujours juste à nos yeux. Et donc tout ce que nous découvrons a toujours nos propres limites. Toujours une manière limitée de voir les choses. Donc elle n'est pas absolue. Job a dit, voilà, il recommence, Job a dit, « Je suis dans mon droit et Dieu me refuse justice. » Il s'agit de savoir ce que c'est. Hein. Et Dieu me refuse justice. « Mon juge envers moi se montre cruel, ma plaie est incurable et je n'ai point péché. » Voilà donc ce qui l'incrimine de nouveau chez Job. Où trouver un homme tel que Job, qui boit le sarcasme comme l'eau, fasse route avec des fauteurs d'iniquité, marche du même pas que les méchants? Comme les autres, il met Job précisément dans le clan des méchants. N'a-t-il pas dit que sert à l'homme de rechercher le bon plaisir de Dieu? Est-ce qu'il n'a pas dit, au fond, Dieu s'en fiche? Que nous soyons bons ou méchants, ça n'intéresse pas Dieu. Ah, qu'est-ce que tout ça veut dire? Or, justement, ce que Job met en valeur constamment, c'est que Dieu s'intéresse à l'homme. Et s'il lui envoie éventuellement le malheur, ben c'est parce qu'il y a une relation. Donc Job, lui, insiste sur cette réalité que ce que Dieu a créé est une présence de Dieu. Et c'est ça qu'il met en évidence. Et justement, que Éliou, pas plus que les autres, ne peut recevoir, parce que pour eux, pour ses amis, pour nous très souvent, Dieu n'est qu'un abstrait. Il n'est pas une réalité vivante. Aussi, et écoute-moi bien, en homme de sens, Dieu est si éloigné du mal, Shaddai de l'injustice, qu'il rend à l'homme, selon ses œuvres, traite chacun d'après sa conduite. De nouveau, c'est la rétribution. Mais si Dieu a une relation profonde avec chacun, est-ce que cette relation n'est pas précisément son salut? Est-ce que c'est pour le condamner? Ou pour traverser sa souffrance, son malheur, son péché? En vérité, Dieu n'agit jamais mal. Shaddai ne fait pas fléchir le droit. Il a raison. Et c'est justement l'attitude que Job a. Dieu ne fait pas fléchir le droit. Autrement, qui donc aurait confié à la terre ses soins, l'aurait chargé de l'univers entier. S'il remettait à lui son souffle, s'il concentrait en lui son haleine, toute chose expirerait à la fois et l'homme retournerait à la poussière. Pas vrai. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Rien. Mais Dieu est présent en nous. Et ce qui est difficile, c'est de confondre cette présence de Dieu en nous et nous-mêmes. Alors ce que demande Élihu, c'est que Job se convertisse. Mais Job n'a pas à se convertir. Il a à découvrir que sa personnalité même est une expression de la tendresse de Dieu. Et qu'il a sa place, limitée sans doute, il a sa place dans la création. Et c'est ce que l'auteur, qui est quand même assez subtil, l'auteur de ce passage du livre de Job, va essayer de nous dire. Discours sur les médiations, comment Dieu atteint l'homme, mais il atteint l'homme vraiment en lui-même. Et puis, il a commencé à parler ici de la supériorité de Dieu. Supériorité qui dépasse absolument l'homme. Donc que l'homme ne peut saisir, que l'homme ne peut comprendre. Alors il y a une certaine incohérence dans le discours d'Élihu. Dieu dépasse infiniment l'homme et pourtant il prend la place de Dieu pour dire qui il est. Et c'est important parce que nous faisons souvent de cette manière-là. Nous imposons en quelque sorte, d'une manière absolue, cette image, cette idée, cette présence de Dieu telle que nous l'appréhendons nous-mêmes. Et nous voudrions qu'elle soit reconnue. Alors que ce qui est peut-être le plus important, c'est que nous-mêmes nous reconnaissions que cette présence de Dieu est toujours là, d'une manière ou d'une autre. Et que, au fond, ce que nous appelons la conversion, pour des croyants, je parle, n'est pas véritablement une conversion, un changement, oui, il y a un changement de cap, mais au fond, c'est la redécouverte de cette présence divine qui nous rend, au fond, très humbles. Comment celui-ci dit à Dieu, je fus séduit, je ne ferai plus le mal. Si j'ai péché, instruis-moi. Si j'ai commis l'injustice, je ne recommencerai plus. Est-ce que d'après toi, il devrait punir, puisque tu rejettes ses décisions? Comme c'est toi qui choisis, et non pas moi, fais-nous part de ta science. Mais des gens sensés me diront, ainsi que tout sage qui m'écoute, Job ne parle pas savamment. Ses propos manquent d'intelligence. Veuille donc l'examiner à fond pour ses réponses dignes de celles des méchants. On condamne l'autre. Car il ajoute à son péché la rébellion. Met en doute le droit parmi nous et multiplie contre Dieu ses paroles. Contre Dieu ? Ou contre l'image que nous avons, qu'il a de lui ? Souvent, beaucoup de personnes se disent contre Dieu, mais ce n'est pas contre la présence de Dieu, parce qu'ils ont besoin de Dieu pour le dire. Mais c'est contre une image que nous avons de lui. Et nos images sont toujours limitées. Et c'est un peu la leçon de Job. Son image, l'image que Job a de Dieu, est aussi limitée. Il le sait bien. Mais sa présence est en lui. Et pour les autres, Dieu est encore extérieur. Et c'est ça qui est à découvrir. Et que doucement, nous allons être préparés à découvrir, surtout en lisant les chapitres 36 et 37. Avant cela, nous avons le 35. Crois-tu assurer ton droit, affirmer ta justice devant Dieu? Vous voyez toujours cette, la justice étant la relation avec. D'oser lui dire, que t'importe, que t'ai-je donc fait si j'ai péché? Eh bien, moi, je te répondrai, et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, et de nouveau, il ouvre la perspective à la supériorité de Dieu. Ce sont tes semblables qu'affecte ta méchanceté, des mortels que concerne ta justice. Et c'est un mot qu'il faut revoir et souligner lorsque nous lisons ces passages 32 à 37. Qu'est-ce que c'est que notre justice ? Est-ce que c'est le bien que nous faisons? Est-ce que c'est l'observance des commandements? Ou est-ce que c'est cette appréhension, quelle qu'elle soit, peut-être très ténue, d'une présence qui nous habite et qui nous fait vivre? Et alors, vous avez ce chapitre 36e, Élihu continua et dit, patiente un peu, laisse-moi t'instruire, car je n'ai pas tout dit en faveur de Dieu. Bon, bien sûr, je n'ai pas tout dit. Je veux tirer mon savoir de très loin pour justifier mon Créateur, comme si Dieu avait besoin qu'on le justifie. En vérité, mes paroles ignorent la fausseté, et c'est un homme d'une science accomplie qui t'entretient. Nous croyons savoir, parce que nous connaissons notre catéchisme par cœur. Dieu ne rejette pas l'homme sans reproche. Il ne laisse pas vivre le méchant en pleine force. Il rend justice aux pauvres, fait prévaloir les droits du juste. Lorsqu'il élève des rois au trône et que s'exaltent ceux qui siègent pour toujours, alors il les lie avec des chaînes, ils sont pris dans les liens de l'affliction, il les éclaire sur leurs actes et sur leurs fautes d'orgueil qu'ils ont commises. Est-ce que Job est un orgueilleux? Il le juge comme cela. Or, il est orgueilleux dans le regard de Job, dans le regard d'Élihu. Mais est-ce que Job est vraiment un orgueilleux? À leurs oreilles, il fait entendre un avertissement, leur prescrit de se convertir. S'ils écoutent et sont dociles, leurs jours s'achèvent dans le bonheur et leurs années dans les délices. Donc toujours, hein, la loi de la rétribution temporelle. Tu te convertis, Dieu change d'attitude vis-à-vis de toi. Sinon, un trait les fait périr et ils meurent à l'improviste. Oui, les endurcis qui gardent leur colère et ne crient pas à l'aide quand ils les enchaînent meurent en pleine jeunesse et leur vie est méprisée. Mais il sauve le malheureux par sa misère, lui ouvre les yeux dans sa détresse. Ça, c'est important. Mais Dieu sauve le malheureux par sa misère, à travers sa misère. Ce chemin à travers l'épreuve est présence de Dieu. Lui ouvre les yeux dans sa détresse. Vous voyez, c'est le travail pédagogique de la souffrance. Et il met ça en évidence, et c'est peut-être la chose la plus importante de ces discours d'Éliou. Pourquoi ? Parce que Dieu est dans la réalité. Il n'est pas dans les idées que nous nous faisons de lui, ou dans ce que nous aurions voulu vivre, ou dû vivre. Il est dans le réel. Il fait partie de ce réel. Et donc, le découvrir là où il est, c'est-à-dire dans sa détresse. Bien sûr, nous ne sommes pas encore dans la sagesse de la croix, mais nous n'en sommes pas loin. Et le serviteur souffrant d'Isaïe et Jésus lui-même vont aller plus loin dans l'expression. Mais c'est déjà cette même réalité qui est appréhendée. Toi aussi, il veut t'arracher à l'angoisse. Vous voyez, il dit beaucoup de choses qui sont exactes. Malheureusement, c'est toujours avec un jugement de l'autre. Auparavant, tu jouissais d'une abondance sans restriction, il l'a dit. La graisse débordait sur ta table, mais tu ne faisais pas justice des méchants. Et ça, on en a déjà traité, et Job lui-même, dans son compte de conscience, en quelque sorte, il a dit, mais oui, est-ce que j'ai fait tout ce que je devais pour mes frères, pour mes sœurs? Est-ce que j'ai été véritablement juste? Il se pose la question, c'est pas cela. Mais tu ne faisais pas justice des méchants, tu décevais le droit de l'orphelin. Prends garde désormais d'être séduit par l'abondance, corrompu par de riches présents. Fais comparaître le riche comme l'homme sans or, celui qui n'a rien, le pauvre, l'homme au bras puissant comme le faible. Est-ce que tu regardes vraiment cette présence de vie en tout homme? Il a raison, mais c'est précisément ce que Job essayait de faire. N'écrase pas ceux qui te sont étrangers, pour mettre à leur place ta parenté. Garde-toi de te porter vers l'injustice, cause véritable de ton épreuve. L'injustice, cause véritable de ton épreuve. Or, il vient de dire que c'est dans l'épreuve que Dieu est présent. Il y a une sorte d'incohérence qui apparaît constamment dans ce discours, notre discours généralement, notre discours qui est abstrait et que nous voulons plaquer sur le réel. Et alors, il y a cette expression de la création. Il attire l'attention de Job dans cette finale, la fin du chapitre 36e et 37e, sont un acheminement profond C'est pourquoi celui qui a écrit ce passage des discours d'Éliou avait quand même le sens de l'intrigue du livre de Job. Il veut nous amener à découvrir que si Dieu est créateur, il est présent à sa création. Ce que Job a perçu, puisqu'il a parlé de sa naissance, puisqu'il a parlé de son cri qui va jusqu'à Dieu, puisqu'il a parlé des mains de Dieu qui l'ont façonné dans le sein de sa mère. Vois, Dieu est sublime par sa force. Il est maître. À quel autre maître le comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire « Tu as mal agi » Songe plutôt à magnifier son œuvre que l'homme a célébrée par des cantiques. C'est un spectacle admirable offert à tous. À distance, l'homme la regarde. À distance. Je suis dans une merveille divine, mais je suis à distance de cette merveille. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science et le nombre de ses ans reste incalculable. C'est lui qui retient les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard et bien des nuages la déversent, la font ruisseler sur la terre humaine. Vous retrouvez ça au chapitre 55e d'Isaïe. La pluie qui vient du ciel ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. Dieu est vraiment présent à sa création. Par eux, il sustente les peuples, leur donne la nourriture en abondance, qui comprendra encore les déploiements de sa nuée, le grondement menaçant de sa tente, c'est du tonnerre, hein, comme Dieu qui commande à la météo. Il étend la nuée dont il s'enveloppe, couvre les sommets des montagnes. À pleine main, il soulève l'éclair et lui fixe le but à atteindre. Son tonnerre en annonce la venue, la colère s'approche comme contre l'iniquité. Ben, c'est encore, bien sûr, une sorte de sentiment animiste. Dieu est présent comme l'âme du monde, et il commande absolument toute la réalité. Mon cœur lui-même en tremble et bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le fracas de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Son éclair est lâché sous l'étendue des cieux. Il atteint les extrémités de la terre. Vous voyez que ce langage est un langage un peu double, à deux niveaux. On peut le matérialiser, on peut regarder les choses dans leur matérialité, dans leur extérieur, et on peut le voir aussi de façon tout à fait intime. Il est comme une présence dans tout cela. Ce n'est pas lui qui commande les réalités météorologiques. Elles sont importantes, elles vont revenir après. Ce n'est pas lui qui les commande. Et pourtant, elles ne lui sont pas inconnues. Derrière lui mugit une voix, car Dieu tonne de sa voix superbe. Il voit bien qu'il y a la matérialité et puis la réalité qui la commande. Et il ne retient pas ses foudres tant que sa voix retentit. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses qui nous dépassent, et il rejoint ici les psaumes de louange à la grandeur du Dieu créateur. Quand il dit à la neige, tombe sur la terre, aux averses, pleuvez dru, alors il suspend l'activité des hommes, pour que chacun reconnaisse cela, son œuvre. Il nous fait découvrir la grandeur de la création qui nous dépasse. pour nous faire percevoir qu'il y a une grandeur de Dieu qui est encore plus profonde, plus lointaine. Les animaux regagnent leur repère, et nous retrouvons les psaumes habituels de 102, 103, etc., 104, et s'abritent dans leur tanière. De la chambre australe sort l'ouragan, et les vents du nord amènent le froid. Il y a là toute une représentation du monde, représentation de l'époque, bien entendu, qui regardait le monde comme statique, comme une sorte de plaine, le sec, qui nageait en quelque sorte sur le mouillé, sur les mers, et tout cela tenant par des colonnes. Et en dessous de cette terre, il y avait le Shéol, et au-dessus, il y avait le ciel des hommes, puis le ciel de Dieu. C'est un peu comme cela que s'imaginaient les gens de cette époque s'imaginaient la cosmologie. Un ciel de Dieu, puis un ciel des hommes, percé de trous par lesquels passaient la pluie, les nuages, la neige, etc. Et puis, plus bas, se trouvait la terre comme une réalité plate sur de l'eau. Vous retrouvez d'ailleurs cela dans un certain nombre d'images d'Égypte, notamment. L'Égypte montre bien ce ciel qui est le souffle de Dieu, le ruach, la ruach de Dieu, la présence de Dieu, et un petit génie qui tient ce firmament à bout de bras, et la terre représentée comme une femme. Une femme sur le sol, qui est l'expression de la fécondité. Et il faut voir toutes ces représentations du monde antique, telles qu'elles sont surtout, qu'elles reviennent surtout dans les fresques égyptiennes, beaucoup moins, il y en a quand même, mais c'est plus difficile à pénétrer, ce sont des sceaux. Des sceaux que un roi, un chef, a posé sur des documents personnels ou politiques. Ça, c'est plutôt la Mésopotamie, c'est la glyptique, donc l'art des sceaux qui va symboliser les choses, mais elles sont intéressantes à cause de la manière de se représenter, ou bien alors la cosmologie égyptienne. Donc c'est un peu tout cela qui est repris ici. Donc bien sûr, l'auteur montre aussi son savoir météorologique. Au souffle de Dieu se forme la glace, la surface des eaux, et la surface des eaux se prend, il charge d'humidité les nuages, et les nuées d'orage diffusent son éclat. Il lui fait circuler, et préside à leurs alternances. Il faut dire aussi que cette description est écrite de manière un peu confuse. Et le texte de Job, mais particulièrement ses discours d'Éliou, sont écrits d'une manière très difficile à déchiffrer. L'hébreu, qui est bien sûr la langue, est un hébreu déjà un peu postérieur, ce qui prouve que on devient très proche du premier siècle dans ce texte. Et il y a tout un passage qui, ici, dans ma Bible de Jérusalem, est remplacé par des petits points. On ne sait plus. Il termine son discours de cette manière. « Mes paroles comptent-elles pour lui ? Est-il informé des ordres d'un homme, Dieu toujours, Un temps, la lumière devient invisible lorsque les nuages l'obscurcissent, puis le vent passe et les balaie, et du nord arrive la clarté. Et nous ne connaissons pas les lois météorologiques, et nous ne connaissons pas Dieu, ni son agir. Dieu s'entoure d'une splendeur redoutable, Lui, Shaddai, nous provoque, nous pouvons l'atteindre, suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer, il s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Regarde Dieu, il te dépasse, il t'apprend dans ta souffrance sa présence. On pourrait résumer un peu comme cela. Est-ce que Job est un orgueilleux? Ou bien est-ce que c'est son propre orgueil qu'Élihu projette sur Job? Voilà. Nous allons voir la fois prochaine comment Dieu va répondre. Comment lui répondrions-nous? Vous voyez qu'il y a une purification de notre idée de Dieu à travers tout cela.